www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.
Bienvenue Isaline, bienvenue Marie. Nous sommes ici ensemble pour parler de l'association genevoise des bibliothécaires et professionnels diplômés en information documentaire. Alors vous-même, donc vous êtes toutes les deux bibliothécaires ?
Oui, dans deux milieux totalement différents. Peut-être je vais me présenter pour commencer.
Oui.
Donc Marie, je suis toute jeune présidente de l'association genevoise des bibliothécaires depuis même pas un mois.
Et félicitations,
tous nos voeux. Je suis notre spécialiste, je suis bibliothécaire pompier, c'est-à-dire que je travaille principalement dans des remplacements de bibliothécaires ou dans des projets de plutôt courte durée.
Très bien, merci beaucoup Marie. Et Isaline ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors Isaline, moi je suis documentaliste en entreprise, donc je travaille beaucoup dans la recherche d'informations, l'élaboration de dossiers. Et puis, j'ai rejoint le comité de la GBD, donc il y a tout juste un mois.
Très bien. Voudriez-vous nous dire qu'est-ce que signifie la fonction de bibliothécaire et de quelle manière est-ce qu'on se forme à ce métier-là ? Et d'ailleurs, est-ce que documentaliste et bibliothécaire sont des formations similaires ou extrêmement distinctes ? Isaline, tu veux commencer à répondre ?
Oui, alors nous avons toutes les deux fait un cursus de base, en fait, qui
commun.
Est commun.
Un tronc commun.
Un tronc commun qui est un bachelor à la Haute École de Gestion de Genève. Et à l'issue de cette formation, on est amené ensuite à travailler dans les bibliothèques, les centres d'archives ou centres de documentation. Et puis après, c'est vraiment en fonction de la pratique sur le terrain, ça peut être aussi par des formations continues ou d'autres contextes, qu'on peut se spécialiser dans plusieurs domaines.
C'est-à-dire qu'au moment de la formation du tronc commun, on ne sait pas, ou peut-être toi, tu ne savais pas encore si tu allais plutôt être bibliothécaire à proprement parler ou documentaliste, qui est ton cas.
Non, alors au tout début, je ne savais pas du tout. On peut... Après, il y a quand même des options dans cette formation. On peut s'orienter un peu plus vers la lecture publique. On peut choisir aussi le domaine de la veille stratégique. Mais c'est vrai que tout départ, c'est vraiment par ces expériences, par des stages, par des cours qu'on va un peu affiner, délimiter son profil.
C'est chemin faisant que l'on découvre ce qui va, les affinités qui vont ensuite donner le métier vers lequel on s'oriente.
Oui.
D'accord. Et Marie, alors, ton parcours ?
Alors, moi, j'ai commencé d'abord par le CFC. Qui est donc le CFC d'agents en information documentaire, qui prépare aussi à travailler tant en archives qu'en centre de documentation qu'en bibliothèque. J'ai fait ça dans une bibliothèque scolaire et ça m'a énormément plu. Le seul petit défaut, c'est que les bibliothèques scolaires engagent, en tout cas sur Genève, assez peu de personnes avec le CFC. Donc j'ai décidé de poursuivre le chemin par le bachelor. Et j'étais amenée à travailler dans principalement des bibliothèques scientifiques, muséales et maintenant à nouveau dans du scolaire.
Très bien. Lorsqu'on a accompli cette formation, est-ce qu'ensuite on peut choisir ou en tout cas orienter la bibliothèque vers laquelle on aimerait aller ? Typiquement, justement, si c'est plus une bibliothèque scolaire, une bibliothèque carcérale dont on va peut-être un peu parler plus tard, ou alors une bibliothèque municipale, par exemple, grand public.
Alors, dans le cadre des remplacements, pour moi... Non, pas vraiment. C'est sûr que parfois, il y a des annonces de remplacement sur des domaines que je ne maîtrise absolument pas, donc je ne vais pas postuler. Mais après, on prend aussi là où il y a de la place.
Mmh. Très bien. À quel moment est-ce que vous choisissez de rentrer, de faire partie de cette association ? Pour vous, ça, c'est quelque chose d'important, ce moment-là ?
Alors, moi, c'était un peu par hasard. J'avais connaissance de l'association, mais je n'y étais jamais plus impliquée que cela par manque de temps et de toutes ces bonnes excuses. Et puis, en arrivant en fin de contrat l'année passée, je regarde passer les emails du milieu professionnel et l'association proposait une bourse pour partir au congrès international qui était à Kuala Lumpur.
Oh.
J'ai donc fait la demande de bourse et j'ai rencontré le comité, l'ancien comité partiel, dirons-nous, de cette manière-là. Et j'ai obtenu la bourse. Je suis partie représenter l'association à l'autre bout du monde et c'était une aventure incroyable. Et ça m'a vraiment motivée à me lancer dans l'aventure maintenant.
D'accord.
Et donc me voilà dans l'association. et à la tête de cet asso, donc je ne pourrai plus reprofiter de cette bourse, mais je me réjouis de l'octroyer à quelqu'un d'autre.
Et toi, Isaline, de quelle manière est-ce que tu as atterri au sein de l'association?
Alors, pour ma part, on m'a proposé de remplacer une intervenante pour donner un cours de recherche d'information qui est justement organisé par l'AGBD. Et c'est suite à cette expérience que le comité d'alors m'a proposé de rejoindre l'association.
D'accord.
Et moi, ça m'intéressait vraiment parce que je trouve que le réseau est très important dans notre profession. Voilà, ça fait maintenant à peu près plus de 3 ans que je travaille au sein de la même structure. Et c'est vrai que quand on est dans la pratique quotidienne de son métier, on perd des fois les grandes problématiques au niveau professionnel. Et puis moi, j'avais envie et besoin d'être au courant de ce qui se passe et de pouvoir contribuer.
Qui y a-t-il dans cette association? Enfin, j'ai bien compris l'intitulé, mais y a-t-il des gens qui sont en formation, des gens qui sont bibliothèques diplômés et qui y restent? Est-ce que c'est un passage un peu transitoire ou est-ce qu'on y reste pour beaucoup? Ça, c'est le premier volet de la question. Et puis le deuxième volet... Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y fait au sein de cette association?
Alors,
c'est Marie qui répond.
Je vais peut-être répondre, voilà. Alors, nos membres sont beaucoup d'anciens bibliothécaires ou de bibliothécaires actuellement en poste. On a très peu, malheureusement, de personnes en formation qui font partie de l'association, alors que la cotisation est gratuite pour les étudiants. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'espère réussir à avoir une influence pendant mon mandat. Comme je donne quelques cours aux étudiants, c'est un peu « au fait, savez-vous que nous existons ?» Donc ça, c'est vraiment le côté où la jeunesse, c'est pas encore totalement là, mais une fois qu'on est à la GBD, en général, on y reste. Certains jusque très tard après la retraite.
D'accord. Voilà. Isaline, comment toi, tu expliquerais que ce... Alors, pas ce désintérêt, mais peut-être cette ignorance, ou en tout cas le fait que justement il n'y ait pas tant que ça de personnes jeunes en formation qui intègrent l'association. C'est par méconnaissance, c'est parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie.
Je pense qu'un des facteurs, c'est surtout des fois si on est en formation, en cursus. Parfois, en tant qu'étudiant, on a encore des petits jobs à côté. Mmh. Je pense que c'est parfois par manque de temps. On privilégie aussi, on peut privilégier la réussite de ses études. Et après, c'est peut-être des questions qui se posent quand on a peut-être le besoin de plus réseauter, que là, on vient rejoindre l'association.
D'accord. Alors si là, on lançait un appel maintenant, disons, rejoignez personnes en formation l'association, comment est-ce qu'on formulerait ça? Quels seraient les points d'attrait? Et ça va avec la question justement de que fait-on au sein de l'association? Qu'est-ce qui veut commencer à répondre, Marie, peut-être?
Alors, je vais très peu diplomatiquement dire « Venez, on fait des apéros ».
Ouais, mais c'est une bonne approche.
Voilà.
En tout cas, c'en est une.
Et puis, bah, effectivement, c'est vrai qu'il y a le côté réseautage. Donc, quand on est en études, on est un peu tout le temps en train de parler de ça et de parler que de bibliothèque. Donc, je peux aussi comprendre qu'on n'ait pas plus envie que ça de s'impliquer ou de participer ou de suivre l'association. Malgré tout, on offre quand même certains trucs assez chouettes. Ben, j'ai parlé tout à l'heure de la bourse pour les congrès internationaux. Donc, c'est une bourse de 1500 francs. Là, cette année, le congrès sera à Athènes. Donc, 1500 francs, ça couvre pas mal. Pour 2020, ça va être plus compliqué parce que ce sera en Nouvelle-Zélande.
En Nouvelle-Zélande, waouh! C'est à l'autre bout de la planète quand même. Ok, ok. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut y trouver au sein de cette association? Également peut-être du soutien quand on a des petites difficultés ou que voilà, tout d'un coup on a un coup de mou puis on se dit mais est-ce que bibliothécaire c'est encore un métier en vogue ou en tout cas dans lequel on trouve du travail? Enfin, toutes ces choses-là, ces questionnements, est-ce qu'au sein de l'association on peut peut-être venir avec des questions et puis se dire voilà, j'ai envie de poser un petit peu mon ressenti actuel et je vais trouver des collègues ou des personnes en tout cas bienveillantes qui vont pouvoir m'écouter, m'aider à m'orienter peut-être.
Alors c'est effectivement un service que l'association offre. Là on a très récemment été contacté par une personne qui souhaiterait se réorienter dans le métier mais qui voudrait avoir une vision un peu plus professionnelle et professionnalisante du cadre de travail, donc c'est une personne que je vais rencontrer la semaine prochaine et voir par rapport à un peu ses attentes, lui expliquer la réalité du terrain, qui sera de toute manière positive parce que c'est vrai que j'aime bien mon métier, même s'il est plein de facettes et que des fois il est plein de défis parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que font les bibliothécaires et puis les gens essayent d'économiser sur le dos des bibliothécaires. ce qui n'est pas une bonne chose du tout, mais c'est la réalité aussi. Et je pense que les nouveaux, les futurs professionnels doivent en être conscients aussi que c'est pas tous les jours tout simple et qu'on a effectivement parfois des coups de mou par rapport à notre métier. Je pense que j'ai eu le mien en début d'année passée et que le fait de partir à ce congrès m'a
ravivé
énormément. Quoi.
Très bien, très bien. Alors, bien sûr qu'on va revenir sur le très large panel de fonctions au sein de la fonction, hein, que ce soit le catalogage, les achats, tout ce qu'on peut faire dans une bibliothèque et pas que dans une bibliothèque. Mais justement, avant ça, j'aurais voulu que l'on situe un petit peu la bibliothèque en elle-même, la structure. Parce que, effectivement, j'imagine qu'il y a des différences considérables entre une bibliothèque scolaire, une bibliothèque municipale et une bibliothèque, comme on l'a dit tout à l'heure, carcérale. Alors, selon vous, la bibliothèque, quelles en sont les missions ? Quelles en sont les situations, les missions et les perspectives ? Isaline, tu commences ?
On est actuellement au cœur où la bibliothèque est amenée à redéfinir ses missions, ses valeurs. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment du numérique, de la digitalisation. On est en période post-industrielle où c'est vrai que beaucoup de nos supports se sont complètement dématérialisés. L'accès au savoir se fait par plusieurs canaux. Et en tout cas, ce qui préoccupe beaucoup les bibliothèques de maintenant, c'est toujours de véhiculer ce savoir, de le rendre accessible au plus grand nombre. Et après, suivant la structure dans laquelle on se trouve, ça va être un peu des services différents. Enfin, une bibliothèque académique ne va pas proposer la même offre qu'une bibliothèque carcérale ou bien qu'un centre d'archives.
Très bien, très bien. Tout à fait. Marie, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, je trouve qu'Isaline a été très claire.
Absolument. Tout à fait d'accord avec toi. On va en arriver justement à ces différentes fonctions au sein de la bibliothèque, mais j'ai envie de vous demander quels sont les lieux où des bibliothèques... Alors, il y a déjà des bibliothèques qui existent, mais y a-t-il des lieux comme ça où vous pressentez qu'il serait intéressant qu'une bibliothèque habite ces lieux-là ? Je pense par exemple aux maisons de quartier. Est-ce qu'il y a comme ça des lieux auxquels les bibliothécaires disent « Tiens, là, il y aurait une réelle utilité à ce qu'une bibliothèque naisse et fonctionne ?»
De mon avis, je pense qu'il devrait y avoir une bibliothèque dans chaque pâté de maison, évidemment. Après, dans la réalité, au niveau des financements, c'est toujours très difficile au niveau des maisons de quartier. Et puis, nous, on a le côté où... On va se dire, oui, financer une bibliothèque, c'est bien. Il faut financer une bibliothécaire aussi. L'amateurisme dans notre profession a été souvent tenté avec plus ou moins de succès. J'ai envie de dire plutôt moins que plus de succès. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Après, pas tant le fait de mettre en place une bibliothèque qui pourrait être intéressante, mais de mettre en place des services de bibliothécaires plus proches de la population, dans les maisons de quartier, mais aussi, comme le font les municipales, en hors les murs, en allant directement dans les parcs, au bord du lac, avec des petites collections, et de toucher aussi les populations, que je vais dire peut-être maladroitement, fragiles. Oui. C'est vraiment... En Suisse, je pense qu'on est relativement privilégié et protégé par rapport à ça, mais il y a beaucoup de projets qui se mettent en place par rapport aux réfugiés, où c'est des sortes de bibliothèques mobiles, des box, avec la documentation, administration et loi, culture du coin où les gens arrivent, et puis aussi des documents sur leur pays d'origine, pour leur permettre à eux de partager leurs connaissances dans une nouvelle langue de leur pays. Donc ça, c'est quelque chose qui marche de plus en plus, c'est les Ideas Box. Donc c'est vraiment monter une petite bibliothèque en terrain inconnu. Et autrement, un autre projet qui m'a pas mal parlé, c'est Toronto au Canada, où ils se sont rendus compte qu'ils avaient un gros problème de mortalité avec un public très spécifique qui sont les jeunes, disons queers, donc les LGBT, sans domicile fixe, qui n'osent pas trop aller en bibliothèque, qui ont besoin pourtant de se renseigner sur leurs droits, sur les maladies, etc., le fait de vivre en plein air et de pouvoir échanger éventuellement. Et donc, ils ont mis en place des structures de bibliothèques presque privatives pour que ces personnes puissent se sentir à leur aise, ou des espaces de documentation dans des bibliothèques neutres, souvent des bibliothèques universitaires.
Très bien. Est-ce qu'on peut imaginer que dans une bibliothèque, on y trouve justement toute une série de documents pour orienter les personnes justement en état de difficulté? J'imagine, par exemple, un rayon avec des flyers et des petites brochures qui disent si vous êtes à Genève et que vous êtes sans domicile, ou qu'il vous faut un point d'eau pour une douche ou un coiffeur ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait habiter les bibliothèques? C'est à ça que tu pensais ou c'est à autre chose encore?
Alors oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait effectivement habiter les bibliothèques. Là, ce serait plutôt au niveau des bibliothèques municipales qui ont ce genre de mission. Mais le problème, c'est que les bibliothèques municipales montrent aux personnes, au public, on dit fragile, d'une certaine manière, leur échec social. Donc, ils ne veulent pas fréquenter ces lieux qui leur rappellent un peu leur échec. Et donc, ils s'orientent plus vers les bibliothèques universitaires où c'est plus anonyme, il y a moins d'échanges, ils peuvent se fondre dans la masse. Et le problème, c'est que les bibliothèques universitaires n'ont théoriquement pas de vocation sociale. Et là, on arrive à un problème entre la réalité et les missions des universités pour lesquelles je n'ai pas de solution.
On va tout de même saluer le travail qui est fait par la bibliothèque interculturelle de la Croix-Rouge, qui est en dessous là, de la P2F. Et qui effectivement a nombre de livres dans différentes langues. Et c'est là aussi un travail et qui est très très accessible également. L'idée, c'est justement que les personnes puissent se valoriser en venant dans un apaisement complet et accéder aux livres. Parce que c'est effectivement de moins en moins évident, j'ai l'impression, d'aller vers le livre.
Alors il y a aussi Dialoga qui fait beaucoup au niveau de la documentation, des livres, qui édite aussi beaucoup de brochures. Et puis il y a Filigrane qui est une bibliothèque féminine et féministe assez engagée, assez sympathique, qui peut être aussi un support social pour des femmes en détresse. Mais là, c'est vrai que c'est des bibliothèques de fondation, des bibliothèques privées. On est plus sur de la bibliothèque, disons, gratuite
municipalisée, ou en tout cas publique,
institutionnalisée.
J'entends bien. Tu as parlé, Marie, de bibliothèques nomades. Ça, c'est quelque chose qui émerge de plus en plus, des petites structures qui se déplacent et qui vont vers le lecteur plutôt que la lectrice, et que le lecteur vienne et entre dans la structure. C'est peut-être plus facile d'aller sur le terrain des personnes.
Alors, c'est plus facile, mais ça amène quand même pas mal de contraintes, ne serait-ce que techniques, parce qu'il faut réussir à prêter les bouquins sans qu'ils partent totalement. Arriver avec le camion dans un parc, donc ça demande aussi des questions d'accès assez intéressantes. Et puis, il faut réussir quand même à attirer les gens jusque vers le camion. Le bibliothécaire n'est pas un vendeur de beignets sur la plage. On pourrait essayer, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Les gens n'auront pas forcément envie d'être dérangés par le bibliothécaire bizarre qui vient leur dire « Vous voulez pas de mes livres ?» Ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça demande de mettre en place beaucoup d'animations autour, pour faire venir les enfants et les parents qui viennent regarder. Et là, la machine est lancée et ça se passe plutôt bien. En tout cas, j'ai eu et vu de bons retours d'expérience. Donc, c'est quelque chose qui se fait, qui demande un élan, mais qui est très positif.
Très bien, très bien. C'est effectivement un grand écart que de se dire qu'il faut en même temps rendre accessible toutes ces choses-là à des enfants, à des aînés, à des personnes en difficulté, en entreprise ou que sais-je encore. J'imagine que ça, c'est un challenge énorme, une réflexion que vous avez continuellement au sein de l'association même, j'imagine.
Oui, et c'est aussi pour ça que on envoie toujours quelqu'un au congrès international, déjà, qui est vraiment fourmillant d'idées, et on essaye d'avoir toujours aussi un représentant sur les congrès nationaux ou dans les conférences. C'est vrai que faire partie de l'association, ça veut aussi dire, en tout cas au niveau du comité, un investissement de temps pour aller voir, prendre des idées, ramener des idées, faire quelques articles aussi.
Bien sûr. J'ai une question à vous poser qui est une question qui est, j'imagine, pour vous sempiternelle. Alors, je m'en excuse déjà, mais voilà, c'est... vous avez déjà anticipé. Alors, Zaline, peut-être... Non, c'est... Pour être un bon bibliothèque, une bonne bibliothécaire et un bon bibliothécaire, faut-il être lectrice, lecteur ou pas tant que ça ? qui a envie de répondre à ça. Est-ce qu'on peut être, est-ce qu'on peut avoir un énorme respect pour le livre, mais ne pas automatiquement être à fond dans la lecture et pour autant être une bonne et un bon bibliothécaire ? Isaline, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, c'est vraiment mon opinion, mais moi je dirais non.
Non, on peut pas. Il faut être.
Pour moi, c'est vraiment important d'avoir une curiosité d'esprit, d'être lecteur, de lire énormément de choses. Après, on peut développer, et c'est ce que nous amène aussi beaucoup la formation, des compétences de gestion informationnelle, des compétences de recherche. On va savoir situer les choses, on va savoir maîtriser plusieurs formats, plusieurs supports. Mais pour moi, par exemple, c'est impensable de travailler dans une bibliothèque publique et ne pas connaître son fond, ne pas avoir lu des romans phares dans les collections, c'est essentiel, quoi.
Je demandais ça parce qu'après Marie répondra également si tu le souhaites, parce que je me disais, tiens, un historien de l'art n'est pas obligatoirement un artiste, mais c'est une comparaison un petit peu tirée par capillotracté. Je suis bien d'accord, mais c'est vrai que je me dis qu'effectivement, comme tu viens de le dire, avoir la faculté de placer dans une époque, dans un courant, dans des petites cases, parce que d'oui, on va en parler, les classifications des bibliothèques, elles nécessitent que pour qu'on ait un fond cohérent et qu'il soit le plus démocratique et accessible possible, on doit mettre les choses un petit peu dans un certain ordre et que peut-être le fait de mettre ça en ordre ne nécessite pas qu'on soit un lecteur féru de lecture. C'est pour ça que je posais la question, Marie.
Alors après, je ne sais pas si ça fait de moi une mauvaise bibliothécaire. Je pense que je n'ai jamais aussi peu lu que depuis que j'ai commencé à étudier pour devenir bibliothécaire. Après, je rejoins Isaline effectivement sur le fait qu'il faut avoir une culture générale énorme et connaître son fond. Connaître son fond, c'est parfois prendre 3-4 mots-clés et ça peut commencer à suffire. J'aime lire, réellement j'ai un vrai plaisir de lire. Selon les périodes, je n'ai plus l'énergie, l'envie, la capacité oculaire de voir ne serait-ce qu'une ligne de texte.
Ok, ouais, bien sûr, c'est normal, après il y a le
temps.
C'est
plus aimer le partage qu'aimer la lecture.
Très bien, très bien. C'est une jolie formule, ça je trouve, effectivement. Abordons les principales fonctions au sein d'une équipe de bibliothèque, si vous le voulez bien. Avec ça, j'aurais envie de vous poser la question suivante. Quand on a un livre, alors c'est un contenu certes, c'est également un objet, qu'est-ce qui capte votre attention dans un livre ? Est-ce que c'est... Bon, évidemment, il y a le packaging, j'ai envie de dire, la couverture, on sait que c'est important, les rééditions, on change de couverture, enfin voilà. Est-ce qu'il y a également l'éditeur ? On travaille beaucoup en disant, on sait que cet éditeur-là, c'est sûr. L'Insomniac, c'est bon, on met en place, on sait que c'est bon, quoi. Ou est-ce que c'est vraiment l'auteur ? On dit, oui, c'est cet auteur-là, c'est bon, c'est un incontournable, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on va porter un regard tout d'un coup sur une nouveauté ou un livre comme ça, plus que sur un autre ? A priori, sans, bien sûr qu'après, évidemment, j'imagine qu'on va plus à fond là-dedans, mais voilà.
Alors déjà la première chose, c'est que toutes les bibliothèques ou presque mettent ou devraient mettre en place une politique d'acquisition, déjà qui limite un peu les coups de cœur et les dépenses à considérer. Après, c'est vrai qu'il y a des titres phares qu'on ne peut pas rater, donc on suit l'actualité de ce qui sort. Et quand on débute dans une bibliothèque ou qu'on fait des missions temporaires, un très très bon moyen de choisir qu'est-ce qu'on va acquérir, c'est d'aller regarder ce qu'on fait le voisin. La bibliothèque de même type qui fait pareil que nous. Après, c'est des mots-clés, c'est le coup de foudre, je ne sais pas.
Est-ce que la sélection, c'est un crève-cœur ? Le fait de se dire, bon, on est l'équipe, on va choisir, on va faire ces achats-là, on sait qu'on a une limite qui est pécuniaire ou autre. D'ailleurs, y a-t-il des sujets tabous, des livres que l'on ne commande pas ? Mais c'est un crève-cœur de se dire, voilà, il va falloir qu'on choisisse et qu'on tranche le nœud gordien, et donc on ne va pas prendre ça et on va prendre ça. Isaline, ça, oui. C'est un truc qui arrive.
Oui, on est même obligé de le faire. Alors, pour ma part, j'avais travaillé 2 ans en bibliothèque académique, dans la gestion des collections en finance, management et statistiques. Et là, on avait élaboré une politique d'acquisition très claire, en adéquation avec ce qui était enseigné, ce que les professeurs voulaient pour leurs étudiants. Et on devait faire des choix. Après, on était aussi dans un contexte où on avait des budgets d'acquisition qui étaient différents entre les disciplines. Et là aussi, on dépend financièrement des structures et malheureusement des politiques d'austérité qui sont appliquées dans les milieux de la culture. Et voilà, on était vraiment obligés de faire des choix, oui.
Donc ça implique une discipline quand même assez conséquente, le fait de choisir des livres. Ça a des conséquences. Enfin, on choisit... c'est une stratégie, dans le sens où c'est une réflexion, c'est ça que je veux dire.
Tout à fait.
Et en fait, voilà, entre les différents griefs et les différentes difficultés que tu viens de citer, il faut un petit peu justement composer avec tout ça.
Oui, c'est ça. Pas évident. Et alors, en tout cas, par rapport à ma pratique, je commandais vraiment les ouvrages de base, même en plusieurs exemplaires, parce qu'il y avait des étudiants qui... Voilà, c'était vraiment des livres pour leurs études, pour leurs révisions d'examen. On avait même plusieurs exemplaires à double, oui. Parce que ça, c'était vraiment une demande très forte. Et après, ça demande d'être peut-être un peu plus limité pour le reste, de savoir aussi réorienter les étudiants vers d'autres ressources à disposition, vers des ressources qui sont peut-être aussi libres, accessibles librement ou qui font partie d'un autre réseau de bibliothèques.
Ce qui fait qu'on peut dire au final que la bibliothèque dans laquelle on travaille fait le bibliothécaire ou la bibliothécaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une bibliothèque technique où effectivement les gens qui accèdent sont déjà en formation vont convoquer que l'on achète plusieurs exemplaires parce qu'on sait qu'effectivement le livre s'abîme, le livre peut disparaître et que de toute façon il y a besoin de plusieurs exemplaires. Mais ça veut dire que c'est vraiment là, c'est la bibliothèque en elle-même qui façonne le bibliothécaire dans ses choix, dans ses achats, dans toutes ses activités d'une certaine manière.
Moi je dirais c'est surtout son public en fait. Le bibliothécaire va vraiment s'intéresser à qui fréquente sa bibliothèque, quels sont ses moyens à disposition pour y répondre et voilà, et qu'est-ce qu'il va pouvoir offrir en...
Oui.
Voilà.
En adéquation avec la population qui fréquente et qui y travaille, j'ai compris.
C'est très marketing, mais l'idée, c'est de répondre à la demande de nos lecteurs parce qu'il faut les faire venir.
Bien sûr, non, mais tout à fait. Y a-t-il, pour celles d'entre vous qui ont travaillé dans des lieux comme des bibliothèques municipales, qui a priori touchent un petit peu à tous les sujets, sans aller trop dans la spécialisation, mais en tout cas essentiellement un petit peu à tout, y a-t-il des livres tabous, des livres que l'on ne prend pas? Et si c'est le cas, comment on décide qu'on ne les prend pas? Est-ce que c'est une décision d'équipe ou est-ce que c'est une décision qui peut venir d'ailleurs?
Alors, au niveau des municipales, déjà tout ce qui sera illégal, on va dire, choquant, ne sera pas acquis. Après, parfois, il y a des erreurs, on va dire, parce que on a commandé un livre qui a l'air super et puis tout d'un coup, quand on l'ouvre, c'est une mauvaise surprise. Ce qui amène la création de ce qu'on appelle des enfers, c'est-à-dire que les livres ne sont plus mis librement à l'accès des lecteurs, mais qu'ils peuvent être demandés et prêtés sous certaines conditions, etc. Après, c'est vrai que c'est rarement un bibliothécaire qui va dire « Oula, non, ça va pas, je ne le prends pas ». Ça va être discuté avec les collègues, avec le réseau aussi. Des fois, c'est directement les bibliothécaires qui vont se rendre compte qu'il y a un problème avec ce document. Parfois, c'est un lecteur. Parfois, quand on est dans une bibliothèque jeunesse, c'est les parents d'un lecteur. Donc là, il faut réussir à trouver une solution, un compromis et vraiment surveiller ce qu'on prête.
Bien sûr. Parce qu'on est là, on est sur le fil du rasoir, on dit... mettons ce document dont on considère qu'il est... mauvais ou en tout cas funeste à disposition pour que les gens puissent en faire une critique, et le fait de le dire oui mais non, parce qu'effectivement le mettre à disposition propage également quelque chose qui selon nous est nocif ou pas bon. C'est un petit peu ça, j'imagine, le carrefour de la décision.
Alors ce qu'on recherche, c'est à ne pas le cacher réellement, mais à pas le laisser en accès libre.
D'accord.
Je pense à un bouquin que j'ai eu entre les mains dans une bibliothèque d'art, qui était quelque chose sur la sexualité, mais très violente. Mais c'était un artiste suisse et ça rentrait dans la politique d'acquisition de la bibliothèque. Mmh. La bibliothécaire, très gênée, m'a demandé de vérifier son catalogage parce que c'est une amie et qu'elle n'avait pas forcément envie de le faire vérifier à ses collègues. Le livre m'est un petit peu tombé des mains et c'est vrai qu'il est en réserve spéciale, il est accessible, on peut le retrouver sans problème, mais il ne sera prêté qu'à un public majeur, avec des mises en garde comme quoi les images peuvent être choquantes et ne prônent pas forcément les valeurs de cette bibliothèque.
D'accord. C'est ce dont tu parlais, les enfers.
C'est à voilà, ça que ça... exactement. D'accord.
C'est pas mal, cette...
C'est le terme classique, où ça peut être la réserve, réserve précieuse, ou ça dépend, mais... Quand on dit ça part à l'enfer, c'est que c'est le carton qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir tous les jours.
Le bibliothécaire, la bibliothécaire, sont-elles des personnes conseils également ? Si moi je vais, que ce soit une bibliothèque académique ou municipale, en disant j'ai envie de me renseigner sur ce thème-là, qu'est-ce que vous me conseillez ? Est-ce que ça c'est aussi... une des fonctions en plus, parce que là on va toucher justement une fonction à l'intérieur d'une biblio, ça c'est aussi quelque chose qui est de votre ressort, pour lequel vous avez mandat. Isaline ?
Oui, tout à fait. Vous avez beaucoup de services d'aide à la recherche qui sont développés en bibliothèque. Et là, en fonction des besoins des lecteurs, des besoins d'études, on délimite un sujet et puis on peut vraiment orienter la personne. Lui apprendre aussi à utiliser des bases de données auxquelles elle a accès. Donc il y a tout un rôle de suivi et de conseil, oui.
Très bien, très bien.
Je pense même que c'est la base principale de notre métier, c'est de pouvoir aider le lecteur. Ça arrive beaucoup que les lecteurs viennent vers le bureau un petit peu en crabe et disent « excusez-moi de vous déranger ». Non, non, je suis là pour ça. Que puis-je faire ? C'est là aussi où la connaissance du fond est essentielle. Savoir ce qu'on a, savoir un bouquin, repérer de quoi il va parler en regardant juste le dos, même si on ne l'a jamais lu. Mais parce qu'on voit le titre, l'éditeur, le nom de l'auteur, et là on fait « ok ».
C'est ça, à la quatrième de couve, l'éditeur sont déjà des conseils apparents. Très bien, très bien. Quelles sont les fonctions que l'on exerce dans vos métiers, le contenu de vos métiers ? Qui veut commencer ? Isaline, tu veux commencer ? Parce qu'effectivement, on sait qu'il y a... Ben voilà, on parlait des achats, on parlait du catalogage, on parlait de la manière dont on allait justement mettre en place ce fonds.
Alors, je pense peut-être les missions tant des bibliothèques que des archives, c'est de... réunir la documentation, la référencer et la mettre à disposition, quel que soit le domaine. C'est nos fonctions de base. Après, elles s'expriment vraiment différemment selon là où on est, les différentes législations aussi qui s'appliquent à la mise à disposition de l'information. Ça, c'est vraiment au niveau des archives. On ne peut pas diffuser n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe qui. Mais ça doit être prêt à être mis en valeur, à être diffusé.
D'accord. Et typiquement, est-ce que c'est plus un travail d'équipe ou est-ce que c'est plus un travail solo ? Est-ce que c'est une personne que l'on va charger et qui, du coup, va un petit peu se spécialiser dans le domaine, par exemple, dans un domaine spécifique ? Ou est-ce que c'est quand même beaucoup des décisions d'équipe où on se dit, bon, voilà les actualités, voilà ce qui sort actuellement dans les romans. Ensemble, on va se dire ça, on prend pas, etc. Ou alors c'est les deux et puis c'est de nouveau chaque structure qui fait comme elle l'entend.
Non, alors c'est vraiment un travail d'équipe. Après, on peut être spécialisé par domaine. Enfin, quand j'ai travaillé à l'université, il y avait vraiment des bibliothécaires, qu'on appelle des bibliothécaires spécialistes de discipline, qui géraient des collections dans des domaines très délimités. Après, au niveau justement des règlements, du savoir-faire, c'était tout un travail d'équipe et c'était chapeauté par des politiques de collection, des politiques d'acquisition qui étaient communes et après qui pouvaient avoir des spécificités.
D'accord. Le réseau, c'est très important. Vous avez cité ce mot-là à plusieurs reprises. Le réseau entre les bibliothèques, vous parlez beaucoup. Y a-t-il des structures formelles ou informelles qui existent pour que l'information passe entre les bibliothèques ? Comment ça se passe de ce côté-là ?
Alors, le réseau est assez essentiel pour nous parce que, avec l'informatisation, on a décidé de faire que les lecteurs puissent aller emprunter dans une bibliothèque sans avoir besoin de se réinscrire, de payer des frais, etc. Ça permet aussi aux bibliothécaires de devenir un petit peu plus flemmards, puisqu'on n'a pas tous besoin de cataloguer chaque livre. Donc ça, c'est un peu l'avantage du réseau. Et ça permet aux bibliothécaires aussi de changer d'établissement selon les besoins, de faire les bibliothèques air-pompiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, il y a aussi le réseau professionnel qui permet de partager sur les nouveautés, de partager sur autre chose aussi. Enfin voilà, quand on est entre bibliothécaires, on ne parle pas que de bibliothèque non plus. Mmh. Nous avons une vie en dehors et nous ne vivons pas entre nos livres. Mais voilà, effectivement, c'est quelque chose qui est technologiquement en place et je pense intellectuellement aussi entre nous et professionnellement.
D'accord. Le numérique, alors pour vous, le numérique, c'est un challenge, c'est un apport supplémentaire ou c'est un danger et, qui pourrait, pourquoi pas, vider ou en tout cas fragiliser la position des bibliothèques? Alors, selon vous, c'est plus quelque chose dont on peut tirer avantage ou un danger dont il faut se prémunir?
J'aime pas le mot danger parce que ça plonge dans, voilà, ça plonge dans l'angoisse. Mmh. Et voilà, et ça dénote d'un avenir qui est plutôt anxiogène. Je dirais plutôt que c'est une opportunité, que voilà, ça va amener des pratiques qui vont coexister avec des savoir-faire qui sont déjà là. En bibliothèque, on peut très bien avoir des personnes qui gèrent justement des fonds où le livre est encore là, le livre est très présent. Il y a 10 ans déjà, on parlait de ça, on s'interrogeait, on se disait oui, mais au final, il n'y aura plus jamais de livre, le papier va disparaître, etc. Non, le livre est toujours là. Les gens lisent toujours. Donc ça, c'est selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. 80% des personnes en Suisse lisent. Et après, ben voilà, c'est vrai que le numérique apporte d'autres choses, d'autres pratiques, d'autres références qui sont dématérialisées. Et puis après, ben c'est vrai que là, on a des compétences informationnelles qui se développent de plus en plus pour accompagner la digitalisation. Pardon.
Qui par ailleurs, comme tu l'as dit, en termes d'archivage, en tout cas, peut être extrêmement utile.
Oui.
D'accord. Après, on voit également toutes ces bibliothèques qui se mettent en ligne des documents et c'est vrai qu'ils les rendent de cette manière-là accessibles aussi. Ça, c'est aussi, j'imagine, un travail qui est intéressant de votre point de vue. Ouais. Ok, pardon Marie.
Après, ouais, moi je voyais une différence par rapport au niveau du numérique, c'est qu'il est très présent dans notre vie, dans la vie professionnelle des lecteurs. Mm-hmm. Je pense particulièrement à la science où tout va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'éditer un livre, on va faire un article en ligne et là on n'aura que du numérique. Au niveau de la lecture plaisir, les gens sont encore attachés vraiment à l'objet. Donc psychologiquement, il y a cet attachement. Et puis les éditeurs francophones ont fait trop peu d'efforts. Donc il y a, pour finir, assez peu de ressources de lecture plaisir qui sont réellement disponibles. On a vite fait le tour, il y a quelques bons éditeurs. Mais pour la lecture plaisir, ouais. Je pense qu'au niveau du francophone, on est en retard sur d'autres langues.
Ok. Je me tourne vers les personnes qui sont autour de nous. Si les questions surgissent, n'hésitons pas. On a encore une petite dizaine de minutes, si ça vous va encore, pour parler. Je suppose qu'on va se revoir, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses auxquelles à aborder. Mais voilà, pour aujourd'hui, il faut qu'on rende quand même l'antenne pas trop tard. On est déjà en dépassement d'une bonne petite quarantaine de minutes. Mais j'aurais encore au moins envie de vous entendre sur 3 points que je vais énoncer maintenant. Et vous me direz si ça vous va. J'aurais voulu, le dernier est extrêmement rapide, extrêmement facile, c'est le livre d'une vie pour vous. Si vous avez envie de nous recommander, conseiller un auteur ou un livre, quelque chose qui vous a parti, une épiphanie, un truc qui a... Voilà. Voilà. Les deux autres choses, c'est effectivement ce projet de librairie, de bibliothèque en prison. Mais là, ce que je vous propose, c'est que vous nous en disiez peut-être quelques mots, mais on reviendrait là-dessus une prochaine fois, si vous êtes d'accord. Et puis, pour vous... La question principale pour moi, c'est la bibliothèque du 21e siècle, comment est-ce qu'elle devrait être selon vous? Alors, je ne sais pas si vous avez envie de répondre à ces questions, et si oui, dans quel ordre?
Alors, moi, je veux bien parler par rapport aux bibliothèques du milieu carcéral.
Okay.
C'est quelque chose qui a cours depuis très longtemps. Les premières bibliothèques carcérales, en fait, remontent déjà au 19e siècle. Donc, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle du tout. Pour Genève, donc à Chandelon, l'espace et l'organisation et le dynamisme de l'institution font que ouvrir une bibliothèque à temps plein, sur place, n'était pas pertinent. Donc c'est les bibliothèques municipales qui ont mis en place un système comme de bibliobus, où c'est un bibliothécaire qui va avec un fonds qui change. Donc les livres appartiennent à la bibliothèque, aux bibliothèques municipales, et les bibliothécaires font un tournus avec des bouquins différents, justement un peu de littérature plaisir, mais aussi beaucoup de littérature formation. Le domaine du droit est toujours très demandé. Après, donc voilà, c'est quelque chose qui bouge, qui fonctionne, qui est paraît-il assez impressionnant pour les bibliothécaires quand même, parce que c'est pas le même univers qu'une bibliothèque scolaire.
Bien sûr.
Ils prennent néanmoins des apprentis, c'est-à-dire que certains apprentis bibliothécaires, donc ceux qui font le CFC, peuvent être amenés à intervenir dans ce type de bibliothèque parce que c'est quand même potentiellement nos futurs employeurs. C'est une manière d'amener la littérature, la lecture dans un milieu auquel on n'aurait pas forcément pensé. Et ça se fait réellement dans le monde entier, c'est-à-dire que l'association des associations de bibliothécaires, donc vraiment l'association internationale qui nous chapeaute, a émis des recommandations par rapport aux bibliothèques en milieu carcéral. Et jusqu'à Guantanamo, il y a des bibliothèques. Quand ils ont voulu fermer la bibliothèque de Guantanamo, ça a été un énorme séisme et les détenus se sont vraiment insurgés là contre. Et pour finir, cette bibliothèque a été maintenue et est restée sur place. Et le bibliothécaire était aussi quelqu'un très apprécié parce que il a un rôle qui est évidemment un rôle d'autorité, et ça c'est le cas dans toutes les bibliothèques. Mais c'est pas le prof, c'est pas le maton. Et donc il a un côté social qui est bien plus développé que dans d'autres bibliothèques.
Et qui est bien sûr ressenti par les détenus.
Bien sûr.
Absolument. C'est extrêmement intéressant. On reviendra vraiment là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup de questions qui surgiraient à ce propos. Mais juste pour préciser, si j'ai bien compris, donc la bibliothécaire font une sélection de livres qui ensuite sont mis à disposition pour les détenus, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc
les détenus ensuite choisissent en disant, il y a une liste là, moi je peux aller là.
Voilà, exactement. Ils vont regarder dans les rayons ce qu'il y a. C'est vraiment comme le bibliobus, comme on ne peut pas emmener toute une grosse bibliothèque, les ressources étant limitées. Il y a un tournus de ressources et puis ça permet d'amener de la nouveauté.
Et là, y a-t-il quand même des sujets un petit peu délicats ? Est-ce qu'on peut faire lire Le Comte de Monte Cristo à tout le monde ? Est-ce qu'on peut faire lire un livre technique sur la serrurerie à tout le monde ? Ou est-ce que là, il faut quand même être... Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ce choix est-il modéré par des responsables de la prison ?
Alors, le choix n'est pas modéré par les responsables de la prison. Ça, c'est quelque chose où les bibliothécaires se gardent une certaine indépendance, je pense. C'est une valeur qui nous est chère tout de même. Mais qui font aussi appel au bon sens.
Oui.
Je pense que Le Comte de Monte Cristo peut tout à fait être lu en bibliothèque carcérale. Le guide du cambrioleur et de les plans du bâtiment de la nouvelle prison, ainsi que les modèles de serrures qui sont
Oui, je pensais bien.
Les livres policiers ont beaucoup de succès en prison.
Ah, c'est vrai. Ah, Non, mais c'est bien. Non, mais tu disais les livres de droit, les livres de. Par exemple, j'imagine que des méthodes de langue pourraient avoir du succès en prison en disant moi je suis là, tant qu'à faire, autant que quand je sors, je parle la langue.
Alors, oui, ça c'est quelque chose qui marche assez bien. Par contre, les guides touristiques, pas du tout.
Ok. Isane, dis-moi, la bibliothèque du 21e siècle, pour toi, quel aspect aurait-elle à l'extérieur et à l'intérieur ?
Alors. Pour moi, la bibliothèque du 21e siècle, c'est vraiment prendre en compte que chaque personne peut collaborer au savoir. Donc, ce serait vraiment avoir des espaces à la fois virtuels et physiques où coexistent des savoirs qui vont être rassemblés et qui vont être mis à disposition pour tout le monde.
L'éducation populaire, c'est quelque chose de central pour une bibliothécaire ?
Je pense que ça peut être une de ces stratégies. Il y a un étudiant de la Haute École de Gestion qui a rédigé son travail de bachelor en 2018 sur cette question de la bibliothèque du 21e siècle. Donc cet étudiant s'appelle Michael Ravedoni et il a fait tout un travail, c'était pour la médiathèque du Valais, où il parle justement de toute l'évolution... des services, des bibliothèques et vers ce quoi vers on va tendre. Voilà, donc ça c'est vraiment un nom à retenir, Michael Ravedoni.
Et peut-être que par le biais de l'association des bibliothécaires, où nous pourrions interviewer ce garçon ?
Il va même faire une conférence, j'ai pas encore de date, le calendrier n'a pas été validé par le comité, mais il est prévu qu'il donne une conférence assez rapidement.
À Genève ou un petit peu plus loin ?
À Genève.
Alors on restera en alerte, certainement. On va doucement arriver au terme de cet entretien. J'ai la dernière question concernant le livre, enfin, quand je dis livre, ça peut être effectivement un auteur ou quelque chose, voilà, quelque chose que vous auriez envie de mettre en avant. Et puis, bien entendu, je me tourne vers nos camarades pour des questions éventuelles. Vous direz après, si jamais. Alors, allons-y. On terminera là-dessus pour aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, nous promettons de nous revoir pour parler plus à fond, notamment de cette prison carcérale qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup, mais pas que. La bibliothèque du XXIe siècle nous intéresse énormément aussi. Et puis, il y aurait d'autres aspects. Voilà, j'aurais voulu vous entendre sur l'accès au jeu à la bibliothèque, ce côté ludique qu'on aurait ou pas. Jeux vidéo ou pas jeux vidéo en bibliothèque ? Je sais que c'est oui, mais je sais que c'est une question qui traverse les esprits également des ludothécaires. Et du coup, voilà, on aurait beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, le temps nous manque, malheureusement. Auriez-vous envie de vous exprimer par rapport à un livre, le livre d'une vie, ou l'auteur d'une vie, ou celui qui vous accompagne à des moments clés de vos vies ? Typiquement, moi, j'ai Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche qui m'accompagne depuis que je suis ado et que je relis partiellement à différentes étapes de ma vie et qui m'aide à me construire d'une certaine manière. Et il est tout le temps pas loin. À vous la parole.
Oui, alors, pour ma part, je suis une grande, grande fan de Romain Gary. Voilà, donc j'ai pratiquement lu tous ses livres. Je trouve la puissance d'écriture est magnifique. Les thèmes qu'il aborde pour moi sont encore d'actualité. Et peut-être le livre de lui qui m'a le plus bouleversée, c'est L'angoisse du roi Salomon.
Romain Gary, qui a d'ailleurs, je crois, dans la singularité d'avoir été nobélisé de littérature sous son nom,
oui,
et sous un hétéronyme.
Oui. Deux fois.
Deux fois. C'est
oui.
Pas mal quand même.
Oui.
Romain Gary, c'est bien noté. Merci Isaline. Marie ?
Alors pour moi, s'il ne devait y en avoir qu'un au niveau des livres, ce serait « Oh Boy » de Mario de Muraille. C'est donc un roman pour ados qui parle de l'orphelinage, enfin du fait de devenir orphelin suite au suicide d'une mère, la découverte de demi-frères, de demi-sœurs, puis de l'homosexualité et de la leucémie. Donc il est horrible. Je le lis et je le relis. Il me fait toujours pleurer plus de 15 ans plus tard et je le trouve magique. Après, je viens de découvrir Patti Smith comme écrivaine.
Mmh.
Et je me fais du Patti Smith comme des Sugus. Je m'autorise que quelques pages par jour.
Ah ouais, c'est bien, tu te rationnes.
Voilà, c'est ça, exactement, parce qu'elle n'écrit pas assez vite à mon goût.
c'est vrai, très bien. Avez-vous eu un premier livre, en tout cas un livre dont vous considérez qu'il est le premier et celui qui vous a mis le pied à l'étrier ? Et puis en attendant, je vous laisse réfléchir, moi je vais aussi donner le mien. Moi, il y en a un qui m'a accompagné aussi longuement dans ma vie et auquel j'ai toujours un petit clin d'œil. C'est Le pavillon des enfants fous de Valérie Valère, qui est là aussi un livre sur la liberté, la psychiatrie, l'incarcération. C'est un petit livre d'une jeune autrice qui malheureusement ensuite en a commis un deuxième et puis ensuite elle est décédée. Une vie très très dure aussi, très très, mais en même temps quelque chose qui m'a permis à moi de me remplir d'espoir. Voilà, alors un premier livre, en tout cas celui dont vous considérez qu'il a mis le pied à l'étrier dans vos trajectoires actuelles, hein, s'il fallait en citer un, en auriez-vous un à nous dire ? Qui veut commencer ? Marie ?
Alors, moi je perds toute crédibilité à partir de là, pour ce que j'avais conservé. Je pense que le premier livre dont je me souviens et que j'ai racheté une petite fortune il n'y a pas longtemps alors que j'en avais encore un exemplaire, c'est Les aventures de Titi et Gros Minet.
Oh mais alors, eh bien, cette espèce de régression positive dont on a toutes et tous besoin.
C'est ça, et c'est ma grand-mère qui me le lisait.
Oui.
Et puis j'ai appris à lire avec ce livre et je pensais qu'il avait totalement disparu, alors que non, ma grand-mère le garde précieusement dans mon tiroir, dans ma chambre d'enfant. Et je l'ai croisé au puce il y a quelque temps et je l'ai racheté sans même me poser la question. Je pensais que ce livre était disparu et non, il est toujours là. Donc je l'ai à double et je le garderai à double.
Très bien, c'est aussi une Madeleine de Proust, j'imagine. Et puis ça te replonge dans un univers qui était
totalement, sachant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'était grâce ou à cause de ma grand-mère que j'étais devenue bibliothécaire. Donc elle m'a susurré ça une fois à l'oreille quand je voulais devenir photographe animalière et puis qu'elle m'a dit que c'était pas très rentable.
Bon bah très bien, merci beaucoup en tout cas Marie.
Merci.
Isaline, et toi, est-ce que tu aurais quelque chose ou non, pas spécialement ?
Non, alors premier livre qui m'a marqué, j'ai un peu du mal à me souvenir, Je sais qu'en tout cas, un livre qui m'avait donné une claque, c'est... Enfin, il y en a deux. Donc, le premier, c'est L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Mmh. À l'époque, quand je l'ai lu, je pense que je devais avoir 20 ans. Donc, ça m'avait beaucoup parlé au niveau philosophique. Et puis après, il y a un autre livre que je trouve majeur, c'est Putain de Nelly Arcan. Et je pense que chaque femme occidentale devrait le lire et ça devrait même être enseigné dans les écoles, au gymnase, etc.
D'accord, très bien.
Voilà.
Eh bien, je vous remercie toutes les deux, Isaline et Marie, d'être venues jusqu'à nous et de nous avoir parlé de ce métier qui est un métier que nous, on considère que... absolument fantastique. Moi, je voulais aussi dire que moi, un des premiers livres qui m'a mis le pied à l'étrier pour la suite, en tout cas de mes petites affaires, c'est L'Herbe bleue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre-là. Oui. Mais moi, il m'avait beaucoup touché à l'époque. C'est un tout petit livre qui est un journal de bord d'une jeune fille qui, malheureusement, là aussi, décède à la fin. En plus, terrible, c'est une overdose. Mais je l'ai trouvé rempli d'une forme, d'une sensibilité, d'un truc à fleur de peau qui m'a conquis, en tout cas à l'époque.
Alors, c'est un livre qui est maintenant très ancien, qui pourrait paraître ringard et qui a encore énormément de succès auprès des jeunes au cycle. Je l'ai prêté pas plus tard qu'avant-hier.
Ah ben, ravi de l'entendre en tout cas, super. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation au sein de l'association, également au sein de vos métiers. J'espère qu'on va se retrouver. En tout cas, nous allons vous solliciter parce qu'on aurait d'autres choses à vous demander encore. Que peut-on dire ? L'association genevoise des bibliothécaires et professionnels diplômés en information documentaire, c'est donc l'AGBD, un site internet, une page Facebook, et puis quels besoins dont vous auriez... Quels en sont les besoins ? Est-ce que des personnes pourraient vous rejoindre ou quoi ?
Alors effectivement, donc, le site internet, donc agbd.ch, je crois. Non, je suis sûre. Un Facebook, un Twitter aussi. Pas encore d'Instagram, même si on va prendre une photo après cette séance. Après, évidemment, nous, ce dont on a besoin, c'est toujours, au niveau de l'association, de forces vives, de professionnels qui nous rejoignent, professionnels qui interviennent sur un cours, un partage, quelque chose. Et puis, au niveau plus large, des politiques qui s'investissent et qui investissent pour les bibliothèques.
D'accord. Toute dernière question, quels sont les challenges de la bibliothèque ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, on va bien comprendre l'importance de la bibliothèque et que donc des efforts seront faits concernant notamment les budgets ? Vous êtes plutôt optimiste de ce côté-là ou un petit peu sceptique ?
J'aimerais être optimiste et je crois en mon métier, donc j'espère que je ne disparaîtrai pas. Après, malheureusement, Hollywood, les bons vieux clichés et un mauvais sens de la communication torpillent les bibliothécaires. C'est à ce niveau-là aussi où la prochaine génération va devoir beaucoup travailler.
D'accord. Donc, du travail reste à faire selon toi ?
Oui, bien sûr.
Isaline, voudrais-tu ?
Oui, je rejoins Marie. C'est vrai que je souligne l'importance aussi d'un grand travail de communication, de faire connaître ses compétences et voilà, de continuer à valoriser les savoir-faire et le métier. Oui.
Ce que vous êtes en train de faire et ce qu'on espère que nous allons reproduire encore. Merci beaucoup Isaline, merci beaucoup Marie et
merci.
À bientôt.
À bientôt.
Merci.
Ciao, ciao.